Le réveil tzigane, qui est un des grands réveils du XXe siècle, on peut dire, puisqu'il a pris une dimension mondiale. Il a commencé en France, mais il a pris une dimension mondiale et qui est un réveil qui a touché un peuple qui était tout à fait particulier, donc le peuple tzigane, dispersé sur toute la surface de la Terre, à l'image du peuple juif, et avec lequel il y a des points communs très intéressants à souligner. C'est le seul peuple qui, avec le peuple juif, dans une droite, on pourrait dire, a gardé son identité, qui avait été touché par à peu près toutes les religions des peuples avec lesquels il avait été mêlé. Dans nos pays, il était catholique. Dans les pays musulmans, il était musulman. Chez les bouddhistes, il était bouddhiste, etc. Donc, en Inde, qui était son berceau, le peuple tzigane est sorti de l'Inde, vraisemblablement, même si l'histoire, évidemment, est très difficile à reconstituer dans la mesure où le peuple tzigane était un peuple qui n'a pas laissé de traces écrites de littérature derrière lui, n'est-ce pas? Souvent, c'était illettré d'ailleurs. Et on peut dire que ce réveil inattendu au milieu de ce peuple est vraiment un des grands miracles de ce temps, n'est-ce pas? Que ce soit précisément dans ce temps que le peuple tzigane ait été touché. Frère Cossack serait prêt à voir dans ce phénomène un signe eschatologique, d'autant que les Tziganes ont également été persécutés par Hitler dans les mêmes conditions. Autant l'extermination du peuple juif était programmée par Hitler, autant l'extermination du peuple tzigane l'était aussi. Et nombre de Tziganes ont péri dans les fours crématoires. On en parle beaucoup moins, bien sûr, parce qu'ils ont été beaucoup moins nombreux, d'une part. Et puis, parce que c'était moins spectaculaire, mais le peuple tzigane était réduit au rang des Undermenschen, des sous-hommes, exactement comme le peuple juif. L'apôtre du réveil tzigane est donc le pasteur Clément de Cossek. Je dis apôtre au sens fort du terme. Non pas, on parle toujours de l'apôtre de, je sais pas moi, l'apôtre de la pétanque ou des choses comme ça. Là, c'est pas du tout le cas. C'est l'apôtre au sens d'Éphésiens 4 du terme. Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. Et on peut dire que le frère Cossek est un authentique apôtre dans la lignée de l'apôtre Paul et d'Hudson Taylor ou d'autres grands hommes de Dieu qui ont rempli vraiment ce ministère tel qu'il est défini dans le texte d'Éphésiens 4. Clément de Cossek, donc, est né en 1920 à Ouessant. Son père était marin-pêcheur mutilé de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Et il avait donc, après la démobilisation, été nommé gardien du phare de la Jument à Ouessant. Et c'est donc là que Clément de Cossek est né, dans une famille nombreuse de 7 ou 8 enfants, si ma mémoire est bonne. Puis le papa Le Cossec a été muté en Normandie, au Havre, où il est devenu aussi gardien de phare dans le cap le phare d'Antifer. Et puis le papa Le Cossec a eu des ennuis de santé très importants. En 1935, il était atteint d'asthme chronique, tout comme son fils d'ailleurs Clément, qui en souffre jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, il souffrait d'eczéma. Et c'était l'époque où le Havre, nous l'avons vu, était touché par le réveil de Pentecôte. Douglas Scott était arrivé 3 ans plus tôt au Havre, et dans le restaurant de Mademoiselle Biollet au ruban bleu, ainsi que nous l'avons vu, se tenaient des réunions de réveil. Puis ensuite, dans ces années-là, à partir de 1935, le pasteur Galis, ainsi que nous l'avons vu, avait commencé des réunions dans une salle qui avait été louée rue Franklin au Havre. Et c'est donc parce qu'il recherchait la guérison de son corps que le papa Le Cossec a commencé à fréquenter les réunions de Pentecôte. La rumeur courait la ville du Havre que les prédicateurs de l'Évangile priaient pour les malades et qu'il y avait des miracles extraordinaires qui s'accomplissaient. Et c'est ainsi donc que la famille Le Cossec et le jeune Clément, qui était âgé, J'étais très jeune à cette période-là, j'étais jeune adolescent, donc a commencé, et la famille Le Cossec a commencé à fréquenter donc, les réunions au Havre. Et c'est lors d'une prédication d'Ove Falg, qui se tenait justement dans ce local de la rue Franklin, que le jeune Clément, qui était alors âgé de 14 ans, s'est converti à Jésus-Christ. Jusqu'alors, il était, en tant que breton, bretonnant d'ailleurs, très catholique, pratiquant. Et là, il a compris l'Évangile et il s'est vraiment tourné vers Jésus-Christ, comme ses parents d'ailleurs. Toute la famille, Le Cossec, est devenue très attachée donc, à l'œuvre de Pentecôte qui démarrait au Havre. Et c'est dans ces conditions que sont arrivés donc, pour une mission les frères Jeffreys. Les frères Jeffreys qui venaient de Grande-Bretagne et qui priaient pour les malades. Et bien que déjà convertis et connaissant le Seigneur, Le Cossec père et fils avaient toujours ces problèmes de santé qui les avaient poussés au début donc à se tourner vers la Pentecôte. Et lorsque les frères Jeffreys ont prié pour les malades, eh bien les deux, le père et le fils, se sont donc approchés. Et lorsque George Jeffreys a prié pour le papa Le Cossec, ce dernier est tombé à terre sous la puissance du Saint-Esprit. Vous allez me dire, c'est Toronto. Non, c'est pas Toronto, justement. C'était tout à fait différent. C'était quelque chose de véritablement divin, n'est-ce pas? Et c'était exceptionnel, d'ailleurs. C'est pour dire que la puissance de Dieu était particulièrement importante quand le prédicateur a prié pour le papa Le Cossec. Et lorsqu'il s'est relevé, il était entièrement guéri. Il n'a plus jamais souffert ni d'asthme ni d'eczéma. Encouragé, le fils Clément donc, s'est approché. Lui, rien ne s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, il souffre d'asthme. Elle a expliqué, je ne sais pas. Là, il y a les mystères, bon, c'est comme ça. Mais, par contre, Clément a senti, dès ces moments-là, que le Seigneur l'appelait à son service. Et à l'issue d'une réunion, il s'est tourné vers sa mère, il lui a dit « Quand je serai grand, je prêcherai l'évangile aux pauvres ». C'était les pauvres, donc ceux qui étaient les exclus, c'était quelque chose qu'il avait à cœur. Et c'était son désir, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, il était jeune encore à ce moment-là. Peu de temps après, son père a été nommé éclusier à Rennes. Et c'est alors que le jeune Clément Le Cossec a décidé de se consacrer vraiment au service de Dieu, de se former pour le service de Dieu. Il était jeune adolescent encore. Et il a donc pris des cours par correspondance à l'Institut biblique pentecôtiste de Londres, dont Howard Carter était le directeur à cette période-là. Puis, parallèlement, évidemment, il a fait des études d'ingénieur des ponts et chaussées, et donc menant les deux choses de front, mais avec évidemment le désir de se tourner vers le service de Dieu. En 1939, la guerre a éclaté, et beaucoup de pasteurs des assemblées de Dieu ont été mobilisés. Donc beaucoup d'églises se sont trouvées sans pasteur. Et c'est alors que le vieux pasteur Gallis, avec lequel Clément Le Cossec s'était converti, lui a dit « Voilà, on a besoin de jeunes stagiaires, de jeunes prédicateurs pour remplacer ceux qui sont mobilisés, ceux qui sont au front ». Et c'est ainsi que Clément Le Cossec a fait ses premières armes pour remplacer des pasteurs mobilisés. Donc c'était en Normandie essentiellement. La guerre terminée, Clément Le Cossec a été reconnu, donc d'ailleurs avec beaucoup de difficultés. Et beaucoup de difficultés parce que très vite il s'est montré extrêmement ouvert. C'était pas du tout un homme borné, c'était pas du tout un homme sectaire. D'abord, il étudiait. Et ça, c'était à l'époque assez mal vu au sein des assemblées de Dieu. Donc, on a vu qu'il avait même pris des cours bibliques par correspondance. Deuxièmement, parce que c'était aussi... il prenait des contacts avec des pasteurs qui étaient étrangers aux assemblées de Dieu. Ce fut le cas lorsqu'il est devenu pasteur de l'église de Lille, juste à la fin de la guerre, et donc... dans les années qui ont suivi immédiatement la guerre, il est devenu pasteur de l'église de Pentecôte de Lille, qu'il a contribué d'ailleurs pratiquement, sinon à fonder du moins, quand il est arrivé, elle était très embryonnaire. Et là, il est entré en contact avec le pasteur de l'église réformée de Lille, pasteur, j'ai oublié son nom d'ailleurs, peu importe, qui lui était d'ailleurs ouvert au réveil. C'était l'époque où l'Église réformée n'avait pas encore pris position officiellement contre le mouvement de Pentecôte, et nombre de pasteurs étaient, et réformés étaient ouverts aux choses de l'Esprit. Et donc le pasteur de l'Église réformée était fort heureux d'avoir contact avec un homme comme Clément de Cossec, et Clément de Cossec, de son côté, était aussi fort heureux d'avoir contact avec quelqu'un qui avait une culture biblique dont il se rendait compte qu'il avait aussi besoin. Et c'est alors, n'est-ce pas, qu'il a organisé une grande convention, enfin une convention nationale, je sais pas, a eu lieu donc à Lille. Et là, le pasteur Le Cossec a eu des difficultés avec un des anciens, qui était jaloux de lui. Là, c'est des choses qui arrivent. Et il a dû quitter donc Lille, on pourrait dire presque en catastrophe. Et là, il s'est retrouvé à Rennes. Il est revenu dans son pays natal, la Normandie, la Bretagne, pardon. Et là, il a ouvert l'œuvre de Rennes, comme on dit. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à Rennes. Ce furent des années extrêmement pénibles, extrêmement dures pour lui. Il n'avait aucun soutien financier. Il n'était pas question à cette époque-là que des pasteurs de l'Assemblée de Dieu travaillent. Travailler donc dans le siècle pour pourvoir à ses besoins était quelque chose qui était passible de l'exclusion, pratiquement, à cette époque-là, dans les Assemblées de Dieu. Et c'était une époque où beaucoup de pasteurs des Assemblées de Dieu ont vécu dans, pour dire, la misère noire. Et Clément de Cossec, avec ses 6 ou 7 enfants, je ne sais plus combien, ou sinon plus, a été de cela. Et là, ses enfants ont eu faim. Lui-même a eu faim. Et malgré le fait qu'il n'avait pas le droit de travailler, je crois qu'il a essayé de prendre quand même des petits boulots par-ci, par-là pour boucler les fins de mois. Et puis, il prêchait l'Évangile. Clément de Cossec était à la fois un battant, et puis non, il avait déjà le ministère apostolique, ça c'est sûr, il avait la marque de l'apôtre, déjà dans son ministère dès qu'il était tout jeune. Et quand il est arrivé à Rennes, son but était l'évangélisation de la Bretagne. Il avait tout de suite dressé une grande carte qui était dans son bureau, avec des flèches qui partaient dans toutes les directions depuis Rennes, alors en direction ici de la Côte-Sud, en direction de la pointe du Finistère, Brest, etc. Brest avait déjà été évangélisé, la Côte-Sud aussi, avec toutes les églises qui se trouvaient justement dans le Sud Finistère, et qui étaient souvent issues des églises réformées. Là, ça avait des choses qui étaient un petit peu pénibles. Les églises réformées, qui avaient été touchées par le réveil, par d'autres que par Clément de Cossec d'ailleurs, se sont divisées au moment où l'église réformée a pris position contre le mouvement de Pentecôte. Et ça, ça a laissé des blessures douloureuses entre évangéliques et réformés jusqu'à nos jours. Ça. Brest aussi a connu des vicissitudes diverses. Et, un réveil a commencé à Brest et puis des vicissitudes ont fait que ça a été étouffé, ça a été bloqué. Clément de Cossec évangélisait Carré également. Et Madame Charles se souvient... quand elle était petite fille, d'avoir entendu Clément de Cossec prêcher là-bas, au bord de la rivière, qui est en bas du centre maintenant, où il avait fait quelques baptêmes, d'ailleurs, qui l'avaient fort impressionné. Et à partir de ces missions d'évangélisation, Clément de Cossec formait des jeunes. Ça, c'était sa vision. Former des jeunes, et ensuite les laisser dans les œuvres, n'est-ce pas, qui est embryonnaire, pour les développer. C'était pratiquement la stratégie de l'apôtre Paul, telle que nous la trouvons justement dans le livre des Actes. Tel Paul avec Timothée, je t'ai laissé ou Tite, je t'ai laissé en Crète pour que tu établisses des églises dans cet endroit. Toi, Timothée, tu vas à tel endroit. Barnabas, Silas, Luc, etc. Enfin bref, il avait repris la stratégie qu'on trouve définie dans le livre des Actes. Bon, c'était une époque un petit peu, les choses se faisaient... il y avait l'enthousiasme du réveil, l'élan du réveil, pas toujours la profondeur, si bien que parfois les collaborateurs n'étaient pas toujours tout à fait à la hauteur, et ça provoquait aussi parfois des problèmes, mais enfin, c'était la vision. Et c'est alors que, sans qu'il l'ait cherché, est venu se greffer justement... ce qu'il appelait dans son livre que vous avez en bibliothèque, Mon aventure chez les Tziganes, quelque chose qui lui est tombé dessus d'une manière tout à fait inattendue. Les choses ont commencé, il avait, à cette époque-là, il avait 25 ans seulement, n'est-ce pas ? En fait, déjà, les choses avaient commencé à Lille, quand il était encore pasteur à Lille, où il avait prié pour un gitan qui était malade. Puis une autre femme qui avait été guérie et qui avait témoigné de sa guérison devant 30 autres gitans. Et puis bon, les choses s'étaient arrêtées là, il n'y avait pas eu de suite particulière. Et c'est en 1950 que le réveil a commencé d'une manière tout à fait fortuite à Lisieux. Lisieux, où se trouvait un pasteur qui n'était pas Clément de Cossec, bien entendu, bien que Clément de Cossec était prévu pour une mission qui devait se tenir peu après. Il devait venir à Lisieux, donc. Et quelques jours avant, une femme, une gitane, se trouvait donc de passage, comme les gitans font toujours. Et alors qu'elle se trouvait à Lisieux, un de ses fils, qui était un jeune homme, est tombé gravement malade, a été hospitalisé. Et le médecin donc a fait venir cette femme, lui dit, écoutez, madame, vous avez d'autres enfants? Il dit oui. Bien, consolez-vous avec eux, parce que celui qui est hospitalisé est perdu. Alors les gitans sont des gens qui aiment beaucoup leurs enfants. Et alors, elle est sortie de là, désespérée, pleurant, bon, etc. Et puis, soudain, une dame qui passait dans la rue la voit pleurer, lui dit, madame, mais pourquoi? Elle lui a glissé un tract. Un tract pour une invitation aux réunions qui avaient lieu à l'église de Pentecôte de Lisieux. Malheureusement, cette pauvre femme ne savait pas lire. Alors elle a pris ce tract et puis s'est dit peut-être qu'après tout, j'aurai une réponse à mon problème. Alors elle a abordé une passante, lui dit, madame, est-ce que vous pouvez me lire ce qu'il y a écrit là-dessus? Et alors la dame lui a lu. Vous savez la formule quoi qu'on trouve encore aujourd'hui dans les églises de Pentecôte, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, le temps des miracles n'est pas passé, enfin les slogans qu'il y avait à cette époque-là, venez et voyez, le prédicateur un tel prêchera l'évangile tel jour, à telle heure, à tel endroit, priera pour les malades, de nombreux témoignages de guérison, etc., etc. Alors là, la gitane a été impressionnée. Elle a dit, mais où est-ce que ça se trouve, cet endroit? Ah, la dame qui lui avait lu le tract s'est mise à rire et dit, bah, si vous saviez, ma pauvre dame, mais où c'est? Oh, c'est là-bas, vous allez voir ce que c'est. Donc, en essayant de la décourager, mais elle avait son problème, son fils malade. Elle est arrivée, donc c'était l'heure justement, la réunion était commencée déjà depuis nombre de minutes. Et cette femme a poussé la porte, et là il y avait la réunion qui était en cours, le prédicateur était en train de prêcher l'évangile, elle est entrée, elle sent, comme font les gitans, quoi, disant, Monsieur, mon fils est malade, il est en train de mourir à l'hôpital, oh, j'ai lu que vous pouvez prier pour les malades, venez à l'hôpital et priez pour lui, comme ça interrompant la réunion. Et le prédicateur dit, écoutez, madame, calmez-vous, la réunion va se terminer, dès que la réunion sera terminée, je vais aller à l'hôpital prier pour votre fils. Alors elle s'est calmée, elle a écouté l'évangile. Et après donc la réunion, le prédicateur et elle sont allés à l'hôpital. Ils ont prié pour le fils qui a été instantanément guéri. Ça a été le début du réveil tzigane, cette guérison miraculeuse. Alors évidemment, vous imaginez la joie de cette gitane quand elle a vu son fils ainsi, s'appelait Zino, son fils. Il était atteint d'une péritonite tuberculeuse. Il était donc considéré comme perdu. Et cette femme était aussi malade. Elle a été guérie elle-même. Elle avait des problèmes d'estomac. Elle a été guérie à ce moment-là. Le frère Le Cossec est passé quelque temps après, donc à Lisieux, et le pasteur local lui a raconté cet incident. Bon, c'est tout. Parmi d'autres choses, il lui a raconté, tiens, on a eu une guérison miraculeuse, là, toujours une gitane, son fils était malade, et puis bon, j'ai prié pour lui, il était guéri. C'était banal à cette époque-là, dans les assemblées de Dieu, dans le mouvement de Pentecôte. Et donc, Clément de Cossec est retourné à Rennes, la mission terminée. Et puis, il n'a plus du tout pensé à ses gitans. Et dans ses tournées d'évangélisation, 2 ans plus tard, en 1952, il faisait une campagne d'évangélisation à Brest. Et soudain, dans la réunion, sont entrés un groupe de gitans. Et ces gitans sont venus le voir après, dit vous appartenez à ce groupe-là, et voilà, on connaît une dame, madame une telle, n'est-ce pas, qui, dont le fils a été guéri alors qu'il était perdu, c'était à Lisieux. Ah oui, dit, que c'est que j'ai entendu parler de ça, effectivement. Il dit, ben voilà, nous aussi, on a soif de l'évangile. Est-ce que vous accepteriez de venir prêcher l'évangile dans notre campement? Et donc, ce soir-là, le frère Kosek est allé à Brest, là, sur le terrain où étaient stationnés un certain nombre de caravanes. Et donc, là, il a prêché l'évangile à ses gitans. Et il dit, là, c'était extraordinaire. Il dit, une soif, ces gens buvaient la parole de Dieu. Alors, plusieurs se sont convertis. Et puis, ils ont repris la route parce que c'était des gitans. Et parmi ceux qui s'étaient convertis cette fameuse soirée à Brest, se trouvait un qui devait devenir un des premiers prédicateurs de la mission, qui se nommait Mantz. Il est parti avec le Seigneur déjà depuis un certain nombre d'années, mais il a été en quelque sorte le pionnier. Et Mantz, qui avait à cette époque-là 28 ans, ne savait pas lire vraiment, mais il avait écouté l'Évangile. Et alors, parlant avec frère Kosek, d'autres prédicateurs, parce que partout où il passait, il allait aux réunions, il entendait l'Évangile, et puis il se fortifie dans la foi. Et soudain, il a eu un problème, il a dit, ben, je veux être baptisé. Il avait entendu qu'il fallait être baptisé. Alors, c'était justement, je crois que c'était à Lisieux, si ma mémoire est bonne, il était repassé à Lisieux par hasard, et il est allé voir le pasteur, là, disant, voilà, j'ai cru à l'Évangile, crois à Jésus-Christ de tout mon cœur, comme c'est écrit dans la Bible. Et j'ai entendu dire qu'il faut être baptisé, celui qui croirait qu'il sera baptisé. Alors, il dit oui, mais pas de problème. Et alors, il lui a posé les questions qu'on posait à cette époque-là dans les assemblées de Dieu. Bon, est-ce que votre vie est en règle avec Dieu? Ah oui, j'ai restitué les choses que j'avais volées, etc. Comme les gitans, il avait fait des petits chapardages à droite et à gauche, etc. Bon, et au point de vue familial, votre vie, vous êtes marié légalement? Ah non, il dit non. Ah non, non, nous, les gitans, en général, on n'est pas mariés légalement, non, non. Pas mariés légitimes, c'est leur mot, c'est leur expression. On n'est pas mariés légitimes. Alors le pasteur dit, bah, écoutez, il faut que vous régliez ce problème. Hein. Moi, je ne peux pas vous baptiser si vous n'êtes pas mariés légitimement. Alors, monsieur dit, mais écoutez, frère, c'est bien gentil tout ça, mais on ne peut pas se marier légitimement, nous, les gitans. Il dit, pourquoi? Parce que... la loi française est ainsi faite que pour pouvoir se marier, il faut déposer les bans, c'est-à-dire l'annonce du mariage, 3 semaines avant le mariage, et résider 3 semaines avoir résidé dans la commune où on se marie, au moins 3 semaines. Mais nous, ils ne nous laissent pas stationner plus de 3 jours. Alors, on ne peut pas se marier. Alors, dit, écoutez, pasteur, moi, ce n'est pas mon problème. Ça, moi, je ne suis pas homme de loi, mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas vous baptiser si vous n'êtes pas marié. Puis il l'a expédié. Et le pauvre Mantz est allé dans d'autres églises et il a fait la même demande et il s'est entendu la même réponse, il s'est entendu répondre la même chose. On ne peut pas vous baptiser parce que vous n'êtes pas marié légitimement. Et donc sa femme, lui il s'appelait Mante, sa femme s'appelait, elle avait son surnom, c'était Pounette son nom. Bon. Alors, il est revenu à Rennes. Il est revenu à Rennes et puis là il est allé voir Clément le Cossec. Il leur a raconté son histoire. Ils sont allés tous les deux, demandent ses Pounettes, le voir un jour, dit, ben voilà, nous on en a assez, tu comprends frère, il dit, nous on aime le Seigneur, nous on veut obéir à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on a vu qu'il faut être baptisé, et j'ai expliqué aux frères, j'ai expliqué que nous on ne peut pas être mariés légitimes, c'est pas possible, et les gadgets ils ne voulons pas nous marier légitimes, tu comprends? Alors, on ne peut pas, et tu sais, moi Pounette c'est ma femme, hein. Et il n'y a pas de problème, je suis fidèle. Il n'y a pas de problème, on est vraiment mariés. Alors tu sais ce que je vais faire, ou tu me baptises, et si tu ne veux pas me baptiser, eh ben, je vais aller à la rivière, je vais ouvrir ma Bible à l'endroit où c'est écrit qu'il faut être baptisé, je poserai la Bible sur la tête de Pounette, et puis je la baptiserai. Et puis après, Pounette, elle posera la Bible sur ma tête, et elle me baptisera. Frère Kosek, ça lui a fait un choc. Il a dit, bon écoutez, laissez-moi réfléchir un jour ou deux. Alors il a prié, il a pris sa Bible, il a étudié, il a parlé avec eux, les gitans, etc. Il est retourné à leur campement, à leurs coutumes, tout ça. Il dit, mais comment vous faites quand vous vous mariez? Bah, tu sais, chez nous, c'est simple, hein, Nous, il n'y a pas de cérémonial comme chez les gadjo, hein. Tu sais, nous, quand un jeune homme, une jeune fille s'aiment, bah, ils partent un soir tous les deux, et puis ils reviennent 3 jours après, puis ils sont mariés. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Mais ils sont mariés, hein. Tu sais, si après ils se divorcent pas, hein, et s'ils sont infidèles, bah, ça se règle à coups de couteau, hein, chez nous. C'est comme ça. Le frère de Cossack a réfléchi, dit, mais oui, il a raison, ils sont mariés. Ils sont mariés parce que nulle part dans l'Église, dans la Bible, il est écrit qu'il faut passer devant Monsieur le maire pour être marié. Et à l'époque biblique, il n'y avait pas de maire pour les mariages. C'est la loi française qui veut ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer devant le maire parce qu'il faut que nous soyons soumis aux lois du pays. Mais devant Dieu, ces gens sont vraiment mariés. C'est leur coutume, c'est un autre peuple que nous, ils ont d'autres coutumes. Nous, on a la coutume française qui est de passer devant Monsieur le maire, etc. Mais eux, c'est un autre peuple. Les Africains en Afrique, ils ont des coutumes de mariage qui sont autres. Si on va même dans des pays d'Europe voisins de la France, il y a d'autres coutumes pour le mariage. Mais l'essentiel, c'est que ce soit ratifié devant la société. Eh ben, eux, ça se fait de la manière la plus simple qui soit, mais c'est ratifié devant leur société, et leur société en prend acte. Ils sont mariés. Il est allé voir Mante Sepounet, il dit d'accord, je vais vous baptiser. Alors il les a baptisés. Et là, il a commencé à avoir des problèmes avec les autres prédicateurs du mouvement de Pentecôte. Comment t'as baptisé des gens qui étaient bons? Il a fallu qu'il explique. Il dit, bon, écoutez, de toute façon, je vais régler le problème sur le plan légal. Alors il a pris Mante, il a demandé rendez-vous au préfet. Ils sont allés à la préfecture de Rennes. Et Clément Cossack a expliqué, voilà, fait expliquer toute l'affaire. Il dit, bon, ces gens-là voudraient se marier, ils voudraient vivre selon la loi, mais regardez comment la loi est mal faite. Et alors le préfet dit, mais c'est vrai, on n'a jamais pensé ça, etc. Écoutez, moi, je peux pas moi-même prendre sur moi de revoir la loi, mais de fait, il y a un problème. Et je me demande si, autant que je me souvienne, le frère Cossack est allé jusqu'au ministre. La justice, ou je sais pas quoi. Alors, Mante, ce qui était amusant, c'était raconter le frère Cossack. Soudain, Mante s'excite un peu. Il dit, ouais, tu vois, frère préfet, tu vois, nous, tu vois, frère. Alors, préfet est un peu surpris d'être le frère du gitan. Bon, il a pris les choses avec une certaine philosophie, surtout que le Cossack a pu quand même un peu rectifier les choses. Et finalement, donc, la loi française a été amendée pour permettre le mariage des gitans. Et soudain, vous voyez, le réveil était bloqué au milieu de Cigane à cause de cette question du mariage. Alors, le jour où Mante, ses Pounettes ont été baptisés, ils ont aussi été baptisés dans le Saint-Esprit. Et donc, le soir, ils étaient là, au milieu des autres gitans, etc. Il y avait un jeune homme qui était un ancien de l'église de Rennes à cette époque-là, ou de Brest, c'était à Rennes ou à Brest, enfin, peu importe. Qui assistait à la réunion. C'était un frère, Louis Kennec. Je ne sais pas si ce n'est pas lui qui a fait une expérience de vie après la vie, dont on a parlé dans un des numéros d'expérience. Il avait un don de prophétie absolument magnifique. Et il s'est mis à prophétiser qu'un réveil extraordinaire allait venir comme un raz-de-marée sur le peuple gitan. Et que c'est quelque chose qui allait se répandre comme un feu de brousse, qui allait envahir toute la terre, le peuple tzigane dans toute la terre. Et des années après, le frère Cossack peut dire, eh bien, cette prophétie était vraiment inspirée de Dieu. Parce que tout ce qui a été dit ce soir-là, en plein air, là, dans ce campement gitan, où il y avait quelques misérables caravanes, c'était encore les caravanes à cette époque-là tirées par des chevaux, les gitans n'étaient pas aisés, comme certains le sont aujourd'hui. Ils ne sont pas tous aisés, mais il y en a qui le sont devenus. C'était vraiment des pauvres gens, comme il avait dit à sa mère, quand je serai grand, j'évangéliserai les pauvres, n'est-ce pas? Et donc là, il y a eu cette annonce de cet extraordinaire réveil. Et donc là, Frère Cossack a compris que Dieu avait pour lui peut-être d'autres plans que ce qu'il avait envisagé, que son idée d'évangéliser la Bretagne, c'était peut-être pas à ça que le Seigneur l'appelait. 5 ans après, donc, effectivement, une partie de la prophétie s'était accomplie. Il y avait 3 000 convertis. 30 ans après, il y en avait 100 000 dans le monde entier. Donc la prophétie s'était véritablement accomplie. Alors donc, Clément Cossack a néanmoins continué son travail d'évangélisation de la Bretagne à partir de Rennes. Et parallèlement, il a commencé à s'occuper des gitans. On savait que là-bas, à Rennes, il y avait un pasteur parmi les gitans. Vous savez, le téléphone arabe fonctionne très très bien parmi les gitans. Et on savait qu'il y avait un pasteur qui baptisait les gitans, qui, même s'ils n'étaient pas mariés légitimes, quoi. Alors, cette histoire de mariage légitime, ça a été un gros, gros problème. Il a fallu des années pour le résoudre, parce que moi, je vous résume ici ce qui s'est passé sur des années. Entre le moment où la visite avait au préfet à Rennes en 1952 ou 53, 53, oui, 53, je crois, et puis le moment où la loi a été modifiée, les rencontres avec le ministre, il a fallu des démarches très, très nombreuses. Et Frère Cossec a toujours été un homme qui a haï l'injustice. Il supportait pas l'injustice, et notamment l'injustice des faibles, quoi. Et ça, il faut lui rendre sa justice. Il se battait comme un lion avec l'opiniâtreté d'un breton têtu, n'est-ce pas, quand il y avait une injustice. Et ça, il s'est battu comme un lion pour améliorer le sort des gitans aussi sur le plan social et autres, hein, ça. Donc, il a fait modifier la loi, puis finalement, bon, bah. Alors, il a fallu régulariser bien des situations, quoi. Alors, je me souviens, beaucoup plus tard, en 1966, les Gitans ont créé donc un centre international en Sologne. Pas n'importe où. Ils avaient acheté un superbe château, enfin, un château, disons, un grand château, dans les réserves de chasse de Sologne, là, pas loin d'Orléans, à quelques dizaines de kilomètres d'Orléans, dans un petit village qui s'appelait Les Choux. Et c'est là que ils ont commencé donc à légitimer les mariages. Alors au début, ça se passait d'une manière très, très, vraiment très académique, très, je veux dire, très formaliste, administrative. J'avais un officier d'état civil, un grade papier, un adjoint au maire quelconque qui arrivait. Alors il avait un petit bureau là dans le château. Et puis les gitans qui voulaient aller faire légitimer leur mariage, y allaient quoi. Aller là, entre deux portes, quoi, entre deux réunions. Bon, on vient pour faire légitimer notre mariage. Oui, bon, très bien. Alors, vous êtes qui très bien. Bon, alors, ils lisaient les trucs, vous savez, à toute vitesse. Bon, promettez-vous d'être fidèle, enfin, tous les trucs. Vous reconnaissez-vous avoir pris pour épouse aujourd'hui mademoiselle Luntel, etc. Bon, oui, au signe là, bon, c'était terminé, quoi. C'était vraiment la formalité. Une végétame de 75 ans qui arrive avec son mari, là. Mademoiselle Luntel, décidez-vous de prendre comme mari. Oui, s'en fout, c'est gadjo. Ça fait 50 ans que je suis avec mon homme. Et il me demande si je veux le prendre pour époux. Oui, les gens, il y a une autre bien belle encore, là. Et soudain, il y a un gitan qui arrive, quoi, tout seul, quoi. Alors, le maire lui dit, qu'est-ce que vous voulez? Je viens me marier. Il dit, vous voulez votre femme? Allez rester avec les enfants. Voilà, les gens, bon, alors, Cossec a dit, bon, il faudrait quand même mettre un petit peu plus de panache à ça, quoi. Alors, à chaque convention nationale, maintenant, depuis, c'est devenu un rite, quoi. Il y a une soirée mariage, une après-midi mariage, quoi. Alors, les couples qui vont se marier sont là, quoi, au premier rang, les autres sont derrière. Et puis, il y a ceux qui, en général, c'est ceux qui se sont mariés dans l'année, qui viennent pour légitimer le mariage qui a été conclu à la gitane dans l'année, quoi. Hein, ils ont gardé leur coutume comme ça. Alors, le maire est là avec son écharpe, sur l'estrade, le frère Cossec à côté de lui, alors frère Cossec fait un petit discours, prend l'évangile, il lit un texte biblique, il le commente, etc. Puis après, il passe la parole au maire, qui fait un petit discours aussi, etc. Puis après, le maire passe dans les rangs, puis pose les questions rituelles, puis fait signer les gens, quoi. Alors bon, une année, frère Cossec nous racontait, là, alors il arrive devant un couple d'un certain âge, vous appelez comment? Meilleur Jean. Bon, meilleur Jean, vous acceptez de prendre pour épouse, enfin tout le truc, bien. Et un jeune couple qui était à côté. Et vous appelez comment? Meilleur Paul. Meilleur Paul, ah bon. Il y a une relation de famille entre le meilleur Jean et le meilleur... Ah oui, mais c'est mon père, dit l'autre. Le maire, c'est la première fois de ma vie que je marie le même jour le père et le fils. Bon, alors voilà comment s'est résolue cette question des mariages. Ça va nous faire rire, mais ça a été le point de départ du réveil. Le réveil est parti de là, quand le Cossec a eu cette intuition que finalement, pour eux, dans leur loi, dans leur coutume, dans leur culture, en tant que peuple différent du peuple français, c'était un mariage. Ils étaient mariés, même si c'était des coutumes un petit peu, bon, expéditives, quoi. Et donc, ça a été le début du réveil. Douglas Scott est venu, peu de temps après, et donc le réveil aussi, ça a donné une nouvelle impulsion. Il y a eu des miracles extraordinaires, parce que les Gitans avaient une foi simple, et de nombreux miracles avaient lieu au milieu d'eux. Jean Nédelec, qui était un jeune prédicateur, est devenu son collaborateur, qui a placé son centre à Lorient d'abord, puis ensuite il s'est déplacé à Brest. Et la Bretagne était vraiment le berceau à ce moment-là du réveil tzigane. Au printemps de 1959, Les Kemal Köseck a compris que le mouvement de Tsigane réclamait toutes ses forces, en quelque sorte, et qu'il allait devoir donc y consacrer l'essentiel de son activité. Il a donc laissé l'essentiel de l'église de Rennes et de toute l'œuvre en Bretagne à un certain nombre de ses collaborateurs, ce qui d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, n'a pas été sans poser parfois un certain nombre de problèmes, parce que les collaborateurs en question n'étaient pas toujours à la hauteur. Et lui a dit maintenant, je dois former des prédicateurs tziganes. Et ça a été l'intuition géniale de l'apôtre Le Cossec, de créer des prédicateurs tziganes. Alors, quand il a parlé de ça à ses collègues de l'Assemblée de Dieu, les autres ont sauté au plafond en disant « Mais c'est pas possible, des gitans, mais ils savent même pas lire, ils savent pas dire deux phrases correctes, et tu veux les en faire des prédicateurs, etc. » Parce qu'ils se rendaient compte qu'il avait un certain nombre de jeunes, comme Jean Edelec, comme là, il y avait Léopold Guyot aussi, il y avait qui d'autre, enfin il y avait plusieurs qui étaient tout jeunes, qui partaient dans le ministère, mais c'était pas gitans. C'était pas gitans, ils pouvaient pas les suivre. Et quand ils partaient, bon, quand ils étaient là, quand il y en avait qui venaient à Lorient, bah, c'était Jean Edelec qui venait là dans l'église, bon, ils allaient à Brest, il y avait un local et tout, mais ils suivaient pas les groupes. Et alors, bon, quand tu montres que c'est, vous voyez bien que c'était le réveil, mais c'était quand même pas, tout n'était pas facile, tout n'était pas rose, il y en avait qui retombaient, il y avait des bagarres, il y avait des nouveaux qui se mettaient à chaparder, il y en avait qui s'énivraient, enfin, il y avait tous les vices et tous les tares qu'il y avait chez les gitans à ce moment-là. Hein, et qui a toujours d'ailleurs parmi ceux qui ne sont pas convertis. Et alors donc, c'est là qu'il a compris qu'il fallait créer, il fallait former des jeunes, des prédicateurs tziganes issus de leur propre peuple, et qui soient capables d'apporter l'évangile à leurs frères, qui soient capables de les suivre et qui soient capables de les encadrer. Il a tout de suite compris que les gitans avaient une structure tribale. Ils vivaient en tribu, en clan et en tribu. Et par conséquent, il fallait que dans chaque clan, il y ait en quelque sorte des prédicateurs. Alors évidemment, c'était une gageure. Là, c'était un pas de la foi extraordinaire. Et encore une fois, les autres pasteurs des Assemblées de Dieu disaient « Mais c'est fou, ça, c'est impossible, ça ne sera jamais. » Et le Cossec était persuadé que c'était le plan de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a pris avec lui trois jeunes gens, trois jeunes tziganes, Mantz, donc le premier converti, non, c'était quatre, très exactement. Un qui répondait au surnom de Pinard, un autre qui s'appelait Callot, et puis le quatrième qui répondait au surnom de Tutur. Bon, alors quand on disait « Nous saluons les frères Pinard, Tutur », c'est un petit peu drôle, mais enfin, c'était comme ça. Seulement, ces braves garçons, dont il avait discerné qu'ils avaient de l'étoffe, ils étaient illettrés, complètement illettrés, ils ne savaient pas lire. Mais il a compris qu'ils avaient de l'étoffe humaine et de l'étoffe spirituelle. Il les a pris chez lui à Rennes, dans son propre appartement. Et il peut vous en raconter, c'est le Cossec, les choses qu'il dit et d'autres qui ne dit pas sur la place publique comme ça. Il racontait qu'un jour, donc, il était au restaurant, et puis donc, ils avaient des pardessus comme ça, et donc, ils avaient chacun mis le pardessus sur les porte-manteaux entrée du restaurant. Et puis donc, il avait mis son pardessus sur celui d'un autre prédicateur, d'un jeune. Et puis quand il reprend son pardessus, après le repas, il le remet, puis il sentait des choses qu'il grattait dans le cou, comme ça. Il regarde, plein de poux. Ah, il dit, j'ai enlevé mon manteau, il dit, comme si c'était affreux, quoi. Avec, bon, c'était inhérent au ministère, quoi. Alors donc, il les a pris chez lui, puis il leur a appris à lire. Il leur a appris à lire. C'était quelque chose de voir ces garçons de 20-25 ans. Donc, il a, avec l'idée d'établir la mission sur le principe des vocations, donc des jeunes prédicateurs. Et je crois que c'est Mantz, il raconte l'histoire de Mantz. Un soir, Mantz, donc, avant de se coucher, donc il faisait le culte le soir, quoi, pour les quatre jeunes gens qui étaient là, quoi. Et puis, il dit à Mantz, tiens, toi, ce soir, tu vas lire la Bible. Alors, Mantz a pris la Bible, il a commencé à lire. Et Jésus dit à la Samaritaine, à peu près comme ça. Et à la fin, donc, il a lu quand même, quoi, il a lu. Et à la fin, il a dit, j'ai bien lu. Alors, il dit, oui, tu as bien lu. Et Mande s'est mis à pleurer d'avoir été capable de lire la parole de Dieu. Et Kossègue disait, c'était un moment particulièrement émouvant quand le premier prédicateur a été capable de lire la parole de Dieu, de le voir pleurer, là, comme un enfant, d'être capable de lire la parole de Dieu. Il s'est mis à pleurer avec lui, quoi. C'était quelque chose de... Et alors, donc, là, aujourd'hui, il y a des centaines de prédicateurs qui sont... Non seulement c'était quelque chose qui était fou, mais c'est quelque chose qui a réussi. Et le succès de la mission Tzigane vient justement de ce qu'il y a des prédicateurs qui sont sortis du milieu d'eux. Alors, évidemment, c'est des prédicateurs qui sont à différents niveaux, hein. Il y en a qui sont des gens remarquables. Je pense à un frère comme Paillon, qui est directeur de l'école biblique des Tziganes aujourd'hui, qui est un homme qui a une culture biblique de haut niveau, hein, et qui n'a pas peur, qui est l'égal de bien des pasteurs ou même des gens qui sont des écoles bibliques parmi les cadjés. Bon, il y en a forcément, comme disait un, hein, je cabosse mon parlement, hein, ou alors un, hein, qui prêchait sur la Sainte Maritaine, justement, ou bien sur le bouc de misère, des choses comme ça. Bon, mais voilà, c'était comme ça, et ça partait. Parmi justement les quatre jeunes gens qui avaient été invités, il avait pris les premiers prédicateurs formés, quand il a dit maintenant vous êtes capable de prêcher au bout d'un temps, et maintenant vous êtes capable de commencer à prêcher. Alors, il dit oui, mais frère, tu es allé prêcher chez les Gadjo, mais tu vois comment on est habillé? Des vieux vêtements, comme c'était les gitans à cette époque-là, ils étaient pauvres. On va quand même pas se présenter comme ça pour prêcher l'évangile, notre Seigneur. Ah, je pense que vous avez raison. Et à cette époque-là, le frère Le Cossec, ça allait un peu mieux au point de vue financier, mais il roulait pas sur l'or. Et c'était un homme qui, d'un désintéressement, d'une abnégation totale. Hein. Et il était prêt à partager. Alors il dit, bon, ben, écoutez, j'ai pas d'argent pour vous acheter. Mais on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors, il a pris les petites économies qu'il avait et sont allés chez un marchand de vêtements. Puis il y avait deux par-dessus pour les quatre. Bon, il dit, écoutez, je ne peux pas vous en acheter un à chacun, mais j'achète les deux qui sont là. Puis vous les passerez. Chacun au fur et à mesure que vous prêcherez. Et alors, quand il prêchait, il y en avait un qui laissait le par-dessus et qui le donnait à l'autre. C'était comme ça le début de la mission de Cigale. Alors, bien sûr, il y a eu des choses extraordinaires, mais ceux qui étaient au départ, ben, ils ont payé le prix. Hein. Ça, c'est sûr que là, il faut reconnaître que Frère Le Cossec a été absolument admirable. Bon. Et souvent, d'ailleurs, non, il n'avait pas pris d'économie. Il avait reçu un don pour un costume, non, un costume pour les deux prédicateurs, en fait. Et donc, là, le réveil commençait à se répandre un peu partout. Et alors, là, Clément de Cossec a eu une autre idée, parce qu'il avait des idées spirituelles, des intuitions spirituelles. Il a dit, il faut des temps forts pour les gitans, parce que bon, bien sûr, les premiers prédicateurs, les quatre là, puis d'autres ensuite qui se sont joints, mais qui suivaient un peu les caravanes, qui veillaient un peu au grain, mais enfin bon, c'était quand même léger. Ils avaient beau être des hommes spirituels, des hommes de Dieu, et d'avoir, mais c'était quand même, bon. Alors il a dit, bah, il faudrait quand même que de temps en temps, il y ait des temps forts. Et c'est ainsi qu'en 1954, a eu lieu à Rennes-Saint-Jacques, c'était à côté de l'endroit où on était là, non? Non, c'est
Non,
ailleurs,
c'est
Saint-Jacques.
l'aéroport.
Ah oui, c'est ça, oui. La première convention tzigane. Bon, là, c'était une petite convention, hein, il n'y avait pas grand monde. Et il avait invité donc deux pasteurs non gitans pour le soutenir pendant cette première rencontre. C'était une expérience en fin de compte. Le pasteur Leblond et puis le pasteur Lucien Clerc qui était baptiste, le pasteur avec lequel je me suis converti d'ailleurs. Et ça a été un succès. Et en 1958, alors là, Clément de Cossec, le réveil s'était encore développé, a organisé la première grande convention. Et là, c'était toujours à Rennes, à Saint-Grégoire, là, cette fois-ci. C'était donc là où on était. Hein. Rappelez ça avec le gitan. Là, il avait invité deux prédicateurs de grand renom, Douglas Scott, d'une part, et puis un prédicateur américain. Un jeune prédicateur américain dont on commençait à parler, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, qui s'appelait T.L. Osborne. Thiel Osborne, qui était né dans le mouvement de Pentecôte américain, les Assemblées de Dieu, et qui avait un ministère d'évangéliste très marquant. Il faisait des tournées d'évangélisation un peu à la Billy Graham, si vous voulez, mais avec la dimension charismatique en plus, et notamment le ministère de guérison. Thiel Osborne avait un ministère de guérison. Et je ne me souviens plus exactement par quel phénomène Clément Kosek l'avait rencontré ou avait entendu parler de lui, je ne sais pas. Et en tout cas, Thiel Osborne était quelqu'un aussi qui était très porté vers l'Afrique. Il avait fait beaucoup de campagnes d'évangélisation en Afrique. Et il avait entendu parler du réveil tzigane. Et comme c'était des gens simples, comme les Africains, il avait accepté de traverser l'Atlantique et de venir donc pour cette convention de Rennes. Là, j'évoque un peu des souvenirs personnels. Mon grand-père avait participé à cette première convention en 1958. Il avait pris sa deux chevaux, il était allé à Rennes, il avait enlevé le siège arrière, il avait mis une espèce de lit dans l'arrière de la deux chevaux, et il s'était mis au milieu des gitans. Là, il y avait 800 caravanes déjà à cette époque-là, donc en 1958, c'était quand même assez considérable. Mon beau-frère aussi, donc le frère de ma femme, avec un autre copain, était venu à vélo depuis le nord de la France jusqu'à Rennes pour participer. Enfin, on venait des noms aux gitans étaient venus aussi. Et là, alors, mon grand-père était rentré débordant d'enthousiasme. Il avait vu des miracles alors extraordinaires, des aveugles qui voyaient, des paralytiques qui se mettaient à marcher, des sourds qui entendaient. Enfin, c'était vraiment le réveil à fond, quoi. Et cette convention de Rennes de 1958 a donné un nouvel élan au réveil au milieu des tziganes. Parce que, précisément, ce qui avait été vu, entendu, et non seulement parmi les tziganes, mais également parmi les non-tziganes, la preuve en est, c'est que notre propre famille a été aussi touchée par le lendemain de cette convention. Là, les incompréhensions ont commencé avec les assemblées de Dieu. Je suis, moi, un missionnaire parmi eux. Il y a des gens qui sont missionnaires en Afrique, il y a des gens qui sont missionnaires en Asie, il y a des gens qui sont missionnaires en Amérique du Sud. Moi, je suis missionnaire en France parmi le peuple tzigane. Mais je fais un travail de missionnaire. Et ça, les assemblées de Dieu françaises ont eu le plus grand mal à le comprendre. En 1958, donc, il y avait 3000 convertis. Et c'est en 1958... alors que l'église de Rennes, qui se rassemblait rue du Hamel à cette époque-là, comptait une centaine de membres, qu'il a abandonné son église et à nouveau, il a recommencé à vivre par la foi. Alors, j'insiste ici sur la consécration de notre frère. Il avait quitté l'île par la foi, il avait commencé Rennes à partir de zéro, vivant par la foi entièrement. Et quand l'Église a été majeure, qu'il pouvait être tranquille, qu'il pouvait là avoir, eh bien, il est reparti à zéro. Reparti à zéro, avec le mépris des pasteurs assemblés de Dieu, qui lui disaient « Tu vas devenir le pasteur des bohémiens ». Il méprisait le peuple tzigane et il méprisait le frère Lekosek parce qu'il abandonnait cette Église pour aller s'occuper du peuple tzigane. En 1947, Clément Lekosek avait lancé une revue pour jeunes qui s'appelait « Lumière du monde ». D'ailleurs, pour ce faire, il avait pris par correspondance toujours des cours de journalisme. Ça montre aussi le sérieux qui était le sien. Il n'avait pas voulu faire quelque chose d'empirique. Et donc, en 1957, il a transformé cette revue en la revue des Gitans. C'est devenu la revue des Gitans, qui a pris le nom de Vie et Lumière, nom qu'elle a encore jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Non seulement le frère Kosek a connu alors l'opposition des milieux donc des assemblées de Dieu, mais également des catholiques. L'Église catholique avait une grosse emprise au milieu des tziganes. Et vous savez, tous les ans, il y avait le fameux pèlerinage au Sainte-Marie de la Mer, en Camargue, où les gitans portaient en grande pompe les statues des soi-disant Marie, il y avait Sainte-Marie, Sainte-Sarah, je ne sais plus quoi, il y en a une troisième encore, qui auraient débarqué après la prise de Jérusalem, poussées par le vent, dérivant dans une barque, etc. Bon. Et alors, c'était l'occasion de superstitions, comme les gitans superstitieux qu'ils étaient avant leur conversion étaient capables, et puis ensuite de beuveries, d'orgies, etc., etc. Et alors, les catholiques surfaient sur cette affaire-là, et l'aumônier général des Gitans, ce qui s'appelait à cette époque-là le père Barthélemy, a vu évidemment d'un mauvais œil ce réveil surgir au milieu des gitans. On était avant Vatican II, on était avant le réveil charismatique au milieu catholique, et ça a été la guerre. La guerre terrible. En 1959, de nouvelles tribus se sont ouvertes. Jusqu'alors, la tribu, l'essentiel de la tribu qui était touchée était la tribu des Manouches. En 1959, la tribu des Juifs, des Tziganes orientaux, c'est-à-dire originaires des pays de l'Est, qu'on appelait les Roms, d'où le nom de Romanichel, qu'on leur donnait péjorativement dans la langue française, a commencé à se tourner vers l'Évangile. Puis, les Gitans qui venaient d'Espagne, dans le sud de la France, qui étaient établis dans le sud de la France, et qu'on appelait les Gitanos, les premiers Gitanos ont commencé à se convertir à cette période-là, et puis ceux qui faisaient les cirques, qu'on appelait pour cette raison les circassiens. Donc différentes tribus ont commencé à se convertir. Et donc là, il a fallu à nouveau structurer le mouvement. La coexistence des différentes tribus n'était pas toujours évidente non plus. Parce que, comme disait le frère Cossé, il n'y a rien de plus raciste qu'un gitan. Même lui, hein, c'est un gadjo, il reste gadjo, il n'y a pas de problème. C'est leur apôtre. Il l'estime, mais le Cossack, c'est un gadjo. Hein. Et faut pas vous tromper, quand vous êtes devant un gitan, même converti, vous êtes un gadjo, ça veut dire que vous êtes un moins que rien. Alors, les non-gitans voient les gitans comme des... Mais les autres le rendent. Il faut savoir, c'est amusant. C'est amusant de le noter en passant. Bon. Mais ça joue aussi entre eux. Entre les Manouches et les Roms, entre les Roms et les Gitanos, tout ça, bon, et... Alors, il a fallu essayer d'arrondir les angles. Bon. Et c'est ainsi qu'en 1962, a eu lieu une nouvelle convention de grande ampleur à Lille, avec Thiel Osborne à nouveau. Thiel Osborne est revenu. Et là, donc, Frère Cossack a structuré le mouvement et a créé un conseil. Un conseil de la mission dont le principal artisan était un homme extraordinaire, il s'appelait Honoré Martin, qui est mort aussi il y a peu de temps, hélas. C'est aussi l'époque où il a été rejoint par un collaborateur non gitan, qui était aussi un homme qui lui a été extrêmement précieux, qui était Gaston Lauré. Gaston Lauré, j'ai entendu parler de lui, c'était ce gangster qui avait... plusieurs crimes sur la conscience, un garçon qui avait mal tourné, orphelin de père et de mère, c'était pas entièrement de sa faute, qui s'était retrouvé en prison, il avait failli être condamné à mort, puis finalement il avait été gracié, on sait trop pourquoi, finalement il aurait dû être guillotiné logiquement, et puis qui s'est converti en prison après s'être ouvert les veines, vous connaissez son témoignage, il avait décidé de s'ouvrir les veines, puis donc il s'était caché une lame de rasoir dans ses bas de pantalon. Puis un soir, il s'est ouvert les veines dans sa prison, et puis, bon, au bout d'un temps, il tombait, il a perdu connaissance, le sang coulait, etc., il raconte ça. Et puis, là, il a eu une vision. Il a vu Jésus qui venait vers lui, et qui a posé sa main sur lui, et qui lui dit « Tu es gracié ». Et il s'est réveillé dans l'infirmerie de la prison. Il était très faible, le directeur, le médecin était là, etc. Puis bon, il a réchappé à sa tentative de suicide, et là, il s'est converti, il a compris que le Seigneur... avait changé sa vie, il était un homme transformé. Il s'est tellement bien comporté qu'il a été gracié. Sa peine a été écourtée, il a été libéré. Bon, il est sorti, il était orphelin, il ne connaissait personne. Et il n'avait aucun lieu à reposer sa tête quand il est sorti de prison. Alors, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je gagne honnêtement de l'argent. Que faire? Il s'est dit, aller dans les décharges et puis trouver des choses à vendre. Alors, il était dans la décharge, la ville dans laquelle il était. Puis là, il a rencontré un ancien prêtre catholique qui s'était converti à l'Évangile, donc à Pentecôte, par l'intermédiaire des gitans. Et qui était devenu gitan pratiquement, qui avait pris un nom gitan, on l'appelait Palco, et qui était un des collaborateurs du frère Cossé, qui vivait en caravane comme les gitans, et il vivait comme les gitans, ça veut dire que il ramassait des vieilles ferrailles, il les vendait. Et puis là, ils ont parlé ensemble, et puis c'est ainsi que Palco a mis Gaston Lauré en contact avec les gitans, qui faisaient le même travail que lui. Et Gaston Lauré a été béni, il a commencé à... Ses affaires ont prospéré à partir de rien, donc ramassant des ferrailles. Moi, bon, il était célibataire, il n'avait pas envie de se marier. Il est resté célibataire longtemps, il s'est marié beaucoup, sur un tard, en fin de compte. Mais tout l'argent qu'il gagnait, il gardait ce qu'il fallait pour lui pour vivre, minimum pour vivre, et tout le reste, il donnait pour la mission tzigane. Il a été celui qui a acheté les premiers véhicules dont les frères avaient besoin, etc. Ensuite, il a été extrêmement précieux à ce niveau-là. Hein. C'était un des grands collaborateurs du frère Le Cossec. En 1960, se trouvait en France une famille de gitans espagnols, s'appelait la famille Moreno, qui était originaire d'Andalousie, et qui ont assisté en 1960 à un séminaire de groupe biblique pour prédicateurs qui avait lieu dans cet endroit-là. Et c'est ainsi qu'ils se sont convertis. Ça a été les premiers gitans espagnols qui se sont convertis. Bon, à cette époque-là, c'était la pleine époque du franquisme. Il n'était absolument pas question, évidemment, d'aller prêcher l'évangile en Espagne. L'Espagne était pays catholique et toute autre religion que la religion catholique était interdite. Et les chrétiens évangéliques, protestants et autres, étaient impitoyablement pourchassés, emprisonnés, persécutés par le régime franquiste. Bon, ces gens-là sont rentrés dans leur pays et dans leur ville comme ça, sans plus, c'est ça. Mais c'était le début. Donc, le frère Le Cossec a tenu, à partir de cette période-là, des séminaires pour former les prédicateurs dans différentes villes. Il a rassemblé tous les prédicateurs d'une région dans une grande ville et pendant plusieurs jours, il leur faisait des études bibliques approfondies. C'était une manière de formation sur le tas, si je vous dis. Et puis alors, il a acheté une tente, grâce aussi à Gaston Lauré, pour créer une école biblique ambulante qui suivait les tziganes un peu partout où il allait. Parce qu'il s'était rendu compte que le gros problème, c'était justement la formation de ces jeunes, de ces prédicateurs. Alors, ça c'était une formule qu'il a rapidement abandonnée, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. D'abord, c'était pour lui un considérable travail. Il était constamment sur les routes. Il ne faisait plus que ça, alors que la mission exigeait qu'il soit sur d'autres brèches. Et puis, deuxièmement, c'était trop superficiel. C'était trop court, quelques jours, 4 jours par-ci, 5 jours par-là. C'est trop superficiel. Et alors, il avait donc décidé repéré un certain nombre de jeunes gens, de jeunes gitans, dont il avait dit, eh bien, ces gens-là seront les piliers de la mission future. Et c'est un fait. Il y avait eu révélation, d'ailleurs. Yvon Charles, à cette époque-là, qui commençait aussi l'œuvre de Carré, avait eu contact avec Frère Cossec, et il avait eu une révélation pour Jimmy, qui est aujourd'hui le président. Et un jour, il lui avait dit, la part de Dieu, « Seigneur m'a montré que tu serais un jour... à la tête de la mission tzigane, mais il faut que tu sois humble, etc. » Enfin, il lui avait donné un certain nombre de conseils de la part du Seigneur. Et donc, Frère Le Cossec a repéré Jimmy Paillon, comment il s'appelait, celui qu'on a rencontré la Pierre David, Tarzan, voilà. Il a dit, ça, ce sont les piliers futurs. Je me souviens très bien de ces trois garçons qui étaient venus avec Carotte, que vous connaissez aussi, qui était un degré moine, mais qui était quand même un homme de Dieu très, très consacré. Ils étaient venus faire une mission chez les Sinclair à Niort. À Niort, à Poitiers, au moment où moi je commençais à me convertir, je fréquentais les réunions. Et quand on a revu Tarzan, ça me faisait plaisir l'été dernier de rencontrer à nouveau Tarzan, que je n'avais pas vu depuis des années. Jimmy, je le rencontrais plus souvent, Paillon aussi. Mais Tarzan, il y a des lustres que je n'avais pas rencontré. Et j'ai rappelé comment on s'était... Je l'avais écouté, alors, jeune, pas converti encore, j'avais à cette époque-là, quoi, 15 ans, j'avais 15 ans, oui, dans la mission qu'ils avaient faite à Poitiers, tous les trois. Ça, Poitiers et Niort, ensuite, ça s'était terminé par des baptêmes à Niort. Ça avait été un jalon important pour ma conversion, ce témoignage de ces trois garçons-là. D'ailleurs, quand j'ai dit ça, il a sorti le tract qui était distribué, qui datait de 1961, qu'il avait encore dans sa Bible. Ça l'avait aussi marqué, cette mission-là. C'était une des premières missions qu'ils faisaient. Et alors, ils avaient vu des miracles extraordinaires pendant cette mission. Ils n'avaient pas fait que le Poitou. Ils étaient passés dans... Ils avaient fait toute une tournée. C'était les premiers, en quelque sorte, la première équipe autonome que le pasteur Le Cossec lançait, justement, sur les routes, quoi. Et donc, là, ils ont compris que... Le pasteur Le Cossec a compris qu'ils allaient faire quelque chose d'important dans la mission. Et alors, il a décidé de les envoyer dans une école biblique qui était l'école, lui, des Assemblées de Dieu, de Belgique, qui était à cette époque-là dans un endroit qui s'appelait Verviers, une ville qui s'appelait Verviers, au nord de la Belgique, non loin de la frontière allemande, dans un château qui s'appelait le château d'Andrimont. Et là, ils étaient mis d'accord avec le directeur de l'école biblique, qui s'appelait Monsieur Amitié, pour que les trois frères, là, Tarzan, Jimmy et Paillon, fassent les 2 ans d'école biblique. Et nos trois garçons, très, très humblement et obéissant à leur apôtre, sont venus se former pendant les 2 ans. Je vous dis pas. Vous imaginez, des gitans habitués à voyager, obligés de rester 2 ans sur place, enfin, avec l'interruption des vacances d'été quand même. Enfin, ça a été terrible pour eux. Affreux d'être obligés là de ne pas bouger, quoi. Ça, c'était le pire, quoi. Pas bouger. Bon, rester comme ça, un mois, oui, mais au-delà d'un mois, c'était pas possible. Et très courageusement, alors, au bout des 2 ans, le frère Amitié a dit au frère Cossé que vous savez, bon, ça a marché pour ces trois-là, mais je veux plus recommencer l'expérience avec d'autres. Donc, c'était l'échec à nouveau de la tentative de formation. Et c'est alors donc que le pasteur Le Cossec a décidé de former une école biblique uniquement pour les gitans, qui ne serait pas sur un temps aussi long, mais qui se ferait par petites étapes, un mois par-ci, un mois par-là, pendant plusieurs années, et qui vaudrait à ça, dont lui-même aurait la responsabilité et la charge. Et il serait donc soutenu avec des collaborateurs qui seraient les pasteurs des assemblées de Dieu de la région. Et en même temps, dans cette école biblique, ce serait le centre de la mission tzigane. Donc, il a quitté Rennes, où il avait habité, il avait abandonné l'église de Rennes, mais il gardait son domicile à Rennes, rue du Commandant Angeau. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Bon. Je me souviens de cette adresse-là parce que je correspondais avec lui à cette époque-là pour Israël. C'était mes premiers voyages à Lidja et je me souviens encore de l'adresse, le pasteur Le Cossec, rue du Commandant Angeau, Rennes. Je me souviens de ça. Et donc, il est venu habiter à Orléans. Et c'est là qu'ils ont acheté donc ce fameux château des choux. Alors là, c'était une aventure vraiment incroyable, quoi. Vous imaginez les gitans dans un château, quoi. Alors un château qui n'était pas de prime jeunesse, qui demandait des... C'était une folie, là, ils se sont trompés. Bon, c'était une erreur qui a été faite, mais enfin... ça demandait donc des millions de réparations pour le mettre... pas des normes, il n'était pas question de normes à cette époque-là, enfin pour le rendre habitable, fonctionnel, quoi, disons. Et surtout, alors il y avait un immense parc. Alors le frère Cossec avait fait installer une aire de stationnement pour les caravanes des gitans, n'est-ce pas, goudronné, avec tout le confort qu'on pouvait avoir à l'époque, des prises de courant pour brancher les lampes, enfin tout ce qu'il fallait, l'eau à proximité, tout, quoi. Mais vous savez ce que sont les gitans, quoi. Les gitans, vous ne le changez pas comme ça du jour au lendemain, même converti. Non, les aires de stationnement, ça ne les intéressait pas. Par contre, l'endroit qu'ils préféraient, sur lequel ils préféraient stationner, c'était les allées d'accès au château. Il y avait deux magnifiques allées, vous savez, comme ça, qui faisaient un grand tour, comme ça, puis qui se rejoignaient sur une espèce de... Je ne sais pas quoi, là, il y avait une grande place devant l'entrée du château, puis il y avait un perron monumental qui montait, etc. Bon... Vous voyez un petit peu comment ça c'était, quoi. Alors là, les allées d'accès, c'était incroyable. Alors, là, dès qu'il pleuvait, dès qu'il y avait un peu d'intempéries, ça faisait des effondrières, des effondrements. Bref, tous les ans, il y avait pour des millions de francs de l'époque, de 1966, pour remettre en état les allées du château, qui étaient aussitôt détériorées à la saison suivante, parce que les gitans allaient immédiatement se restationner là-bas. Il n'y avait rien à faire. Puis un autre problème, alors beaucoup plus grave qui a éclaté, c'est que les gitans avaient des chiens. Et les chiens, bah, les gitans, vous savez, les chiens des gitans, hein, c'est pas... Ils les laissent courir comme ça, ils les détachent, et puis bon, voilà. Et là, on était en Sologne. Vous savez ce que c'est, la Sologne? Réserve de chasse de tous les grands bourgeois de Paris. Et le château des Choux était le château d'un ancien bourgeois, enfin d'un bourgeois qui l'avait vendu, etc. Alors là, il y avait... Toutes les années, ces messieurs faisaient venir à grands frais des faisans qu'ils élevaient pendant l'année jusqu'au moment d'ouverture de la chasse, auquel cas, ils venaient ensuite leur... Et les chiens des gitans ont commencé à faire une razzia des faisans. Et les gitans, alors, ces messieurs qui avaient des moyens ont photographié au radar les chiens des gitans qui étaient en train de capturer des faisans. Et il y a eu plainte au tribunal, ils ont été condamnés à des amendes considérables. Et bon, mais ils ont dû fermer le château, vendre le château pour payer les amendes, quoi. Ça s'est terminé comme ça, la triste histoire du château des choux. Mais pendant quelques années, ils ont réussi à faire ce qu'ils avaient à faire. Donc là, C'était un parc qui avait 10 hectares. Ça leur a coûté 28 millions de centimes de l'époque. 28 millions de centimes, oui, c'est ça, je crois. Alors, il a fallu vendre les choux. Là, il y avait donc des gens comme Mario Eschler, Kenneth Ware, Jean-Claude Guillaume, qui enseignaient, puis Jimmy et Paillon, qui, donc, fraisiers moulus d'Andrimont, ont été bombardés professeurs et qui ont commencé à enseigner là-bas. Je suis allé moi-même faire des cours au Château des Choux en 1968. C'est là que j'ai rencontré Yvon Charles. C'est un jour qu'on était tous les deux, justement. Il invitait comme ça pour 2-3 jours. On était invités pour une semaine. Je rentrais d'Israël à cette époque-là et il m'avait demandé de parler de la guerre des 6 jours, d'Israël, etc. Et c'est là donc que j'ai rencontré, j'allais faire des cours d'archéologie, des choses comme ça. Et c'est ainsi que Jimmy a été choisi comme président de la France, quoi, hein, de la France. Bon, on va arrêter là, et puis on verra la prochaine fois la suite. Il me prête juste un crayon. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?